Bonsoir et quelle joie de vous retrouver une fois encore pour clore cette semaine d'émission spéciale à Béni. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, c'est Tribune de presse, c'est-à-dire l'espace d'analyse consacré aux journalistes, et spécial Béni oblige. Nous serons exclusivement avec nos confrères travaillant au Nord Kivu ou dans la région de Béni, dans nos installations dans la région. Nous sommes notamment ce soir avec Mustapha Moulonda, directeur de la radio Voix universitaire officielle des Semouliki Vios de Béni. Mustapha Moulonda, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir aussi à tous les auditeurs qui sont en train de nous suivre par instant.
Merci, mais aussi Eric Kawangoy, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs.
Rédacteur en chef de la radio-télévision Rwanzururu de Béni, RTR en sigle. Et enfin, John Kanyunyu, journaliste correspondant de la Deutsche Welle, voix de l'Allemagne au Nord Kivu. John Kanyunyu, bonsoir.
Bonsoir, merci. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capri.
Alors, les actualités abordées dans Tribune de presse de ce soir sont celles les plus récurrentes à Béni, à savoir l'insécurité chronique dans cette région depuis plusieurs années maintenant, explications et pistes de solutions. Même chose pour la maladie à virus Ebola qui sévit depuis au moins une année maintenant. Et nous analyserons enfin le travail de la presse dans la région, comment les journalistes ici travaillent, dans quelles conditions. Nous allons évoquer tout cela, comment évaluer le travail de la presse au quotidien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Tribune de presse spéciale Béni dans la province du Nord Kivu. Mustapha Moulonda, directeur de la radio Voix universitaire officielle de Semouliki Vuos en sigle Béni. Vous venez d'écouter la matière de notre débat de ce soir, mais l'actualité au Nord Kivu et dans la région de Béni, comme un peu partout dans le monde, est toujours abondante. Alors, en dehors du menu de ce soir, avez-vous à ce stade une autre actualité non prévue que vous souhaitez nous partager ce soir?
Vous avez presque tout touché, la ville de Béni, c'est tout ça, l'insécurité. La ville de Béni, c'est également la maladie à virus Ebola, mais ce que vous n'avez pas touché, parce que je suppose que vous n'avez pas circulé, il faut dire que la population de Béni, elle est vraiment résiliente, parce que malgré Ebola, malgré l'insécurité, vous allez vous rendre compte que cette population se régale. Il y a l'insécurité, mais il y a la population qui est là et elle fait la fête comme elle paye. Dans des bistrots, les gens se régalent. Dans des églises, même nuitamment, les gens sont forts malgré l'insécurité. Ils se déplacent bien sûr, mais là où ils trouvent un peu de réconfort, ils sont ensemble et ils festoient ensemble. Et c'est ça donc le paradoxe de Béni. Quand vous arrivez au centre-ville, au rond-point, vous pouvez même dire que c'était faux ce qu'on vous avait souvent raconté à Kinshasa, parce que vous allez trouver la ville en train de vivre sa vie normale.
Merci Mustapha Moulonda. Eric Kawangoy, rédacteur en chef de la radio-télévision Rwanzururu de Béni, RTR, je vais y arriver, votre commentaire libre.
Oui, tout à fait. Ici à Béni, nous apprécions les activités de cohabitation pacifique, les activités de rapprochement entre civils et militaires et policiers. Ce sont des activités qui sont de se passer en ville de Béni. Les policiers, les militaires et les civils organisent des activités ensemble pour la paix. Nous saluons, mais cependant, il y a encore un souci qui n'est pas encore dissipé. Les jeunes de Béni ne sont pas encore suffisamment informés sur les mandats de la MONUSCO. Il y a peu, il y avait des tensions à ville de Béni. Les gens ne comprennent pas encore qu'est-ce que la MONUSCO doit faire, quel est son mandat. Et là, quand même, il y a des actions civilo-militaires que nous apprécions.
Merci Eric Kawa. John Kanyunyu, vous êtes un peu un habitué par rapport à cette tribune spéciale. John Kanyunyu, journaliste correspondant de La Voix de l'Allemagne, Deutsche Welle. Quel est votre avant-goût informationnel?
Oui, pour moi, c'est pas tellement une information. Moi, je voulais parler juste de l'an 1 du président Félix Tshisekedi à la tête de ce pays. Et ça fait une année qu'il... qu'il dirige ce pays et il a donné beaucoup de promesses, entre autres le rétablissement de la sécurité dans cette partie du pays et aussi l'éducation des bases gratuites. Et nous sommes en train de l'évaluer, mais ce que je retiens sur l'an 1 de Félix Tshisekedi à la tête de ce pays, c'est aussi cette cacophonie qu'il y a entre les alliés, ou entre les partenaires. Il y a le FCC d'un côté, il y a le CASH de l'autre. Et avec cette bataille ouverte, et on s'est dit, est-ce que l'enfant qui était né il y a de cela une année va survivre? Est-ce qu'on ne va pas jeter l'eau avec le bassin?
Wait and see.
Et le bébé dedans, wait and see. Attendons voir. Mais moi, je pense que il faudrait qu'il y ait quand même intérêt d'attente entre les deux partenaires, parce que ce qui prime et ce qui est important dans tout ça, c'est le bien-être de la population. Ils doivent essayer un peu de mettre un peu d'eau dans leur vin pour sauvegarder et pour développer ces pays. Ce n'est pas à dire qu'ils sont là parce que ils l'ont voulu, mais ils sont là parce que ils doivent travailler pour l'intérêt de la population et non pour leur intérêt privé, les intérêts égoïstes. Voilà, en bref, ce que j'avais comme commentaire avant d'aborder les sujets retenus ce soir.
Merci John Kanyunyu. Justement, nous y allons. Notre premier thème de ce soir, c'est l'insécurité non encore résolue dans la région de Beni depuis plusieurs moments déjà. Plusieurs milliers de morts ont jusqu'ici été enregistrés, des habitations et des champs désertés. L'armée de la RDC vient depuis quelques semaines de récupérer un certain nombre de bastions des ADF et Mai Mai dans la région, mais l'insécurité et la prudence demeurent. Alors, Mustapha Moulonda, directeur de la radio Voix universitaire officielle de Semouliki, Voix sans sigle de Beni, selon vous, comment expliquer déjà cette insécurité chronique qui s'éternise? Et selon vous, qu'est-ce qui provoque déjà cette insécurité et comment la juguler une bonne fois pour toutes?
Merci beaucoup pour les choix d'abord de ces sujets parmi ce qui était déjà choisi, parce que c'est vraiment un problème. Beni traverse depuis très longtemps l'insécurité et cette insécurité ici met à mal même les trains de la vie. Et moi, je dirais que c'est une nébuleuse. Je suis journaliste, mais jusque maintenant, j'ai du mal à dire scientifiquement qui tue à Beni.
Mais qu'est-ce qui est déjà à l'origine, selon vous, de cette insécurité qui s'éternise depuis?
Franchement, et même quand je parle de cette nébuleuse, donc, c'est sur le plan même de l'origine. On va juste commenter comme de chercheurs, mais ayant des hypothèses, mais pas vraiment des preuves.
Alors, loin de Beni et à travers le monde, on a souvent tendance à penser que c'est une insécurité causée par des institutions, tout comme par des individus, mais aussi par des intérêts.
Alors, c'est un jeu de ping-pong que nous voyons depuis des années ici à Beni, mais moi, je dirais que la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée, je commence par exemple, ces mêmes ADF. Est-ce qu'ils sont ADF? Parce que je parle, est-ce qu'ils sont ADF? Parce que je ne vois pas vraiment l'objectif. Je ne vois pas pourquoi ils sont en train de tuer la population de Beni. Parce que s'ils avaient les desiderata, s'ils avaient un objectif, ils allaient déjà dire cela même auprès des autorités, auprès même soit de la population ou des autorités locales, et les gens pouvaient avoir une solution par rapport à leurs demandes. Mais ils sont là, ils sont dans la forêt, ils tuent les paisibles populations. C'est très compliqué avec eux parce qu'ils contournent même les camps militaires.
Mais ADF ou pas, pensez-vous que s'il y a des instigateurs de cette situation, pensez-vous que ces instigateurs mènent justement ces actions à cause des nombreuses ressources que regorge la province du Nord Kivu et notamment la région de Beni?
Mais cette partie est riche. C'est une partie richissime, il faut voir sa verdure, mais aussi tout ce qui est sur sous le sol. Donc c'est un endroit qui qui ne doit que provoquer même les voisins pour venir envier ici. Hein, la thèse est de plus en plus être approuvée du fait qu'il y a derrière cette situation la balkanisation. Donc il y a plusieurs acteurs qui opère dans ces milieux. Comme c'est un milieu vaste, c'est un parc national. Donc, il se cache derrière cette partie. Et vous allez vous rendre compte que derrière cette partie, donc dans cette forêt, il y a les ADF eux-mêmes qui sont là. Et à part cela, il y a également les Maï-Maï qui sont là. Vous savez, dans un milieu où il y a de vrais, je parle bien de vrais Maï-Maï, les populations ne peuvent pas être tuées comme c'est le cas ici à Béni.
Parce que à l'origine, si je me trompe, vous me corrigez, à l'origine, les Maï-Maï, ça devrait être des forces d'autodéfense qui sont pro-population et qui ne devraient pas les tuer.
C'est vrai, on les appelle les guides d'autodéfense. Donc quand la population est menacée, le Maï-Maï doivent se mettre là en avant-plan pour aller sauver la population. Mais depuis que je suis à Béni, je suis vraiment d'ici, je n'ai jamais allé sur terrain et couvrir soit une activité où il y a le Maï-Maï qui se sont affrontés directement avec les ADF. C'est le contraire. Souvent, ce Maï-Maï-là se bat avec les FARDC. Et c'est là que ça devient compliqué. Donc, c'est vraiment une nébuleuse. C'est une situation difficile à comprendre. Et c'est une carte pour presque tout le monde. Quand je parle de tout le monde, je parle de la population locale. Il y a de ces populations locales, pas toutes. Donc, il y a certains des habitants qui coopèrent avec les criminels de la population de Béni. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment un service de renseignement digne de son nom pour traquer et voir exactement les ramifications, parce que les ADF sont ici depuis très longtemps. Ils ont déjà tissé des relations avec la population civile. Ils sont dans les milieux. Ils opèrent désormais et dans la ville et dans la bourse, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un service de renseignement.
Alors, vous fustigez un service de renseignement, mais comment expliquez-vous déjà hein, ce qu'on appelle depuis quelques jours quelques victoires de l'armée régulière sur justement ces groupes armés qui agissent ici? Selon vous, est-ce qu'il y a vraiment, on peut applaudir, on peut dire qu'il y a eu des victoires ou à vous entendre, ça pourrait être une mascarade?
Les victoires sont là sur les lignes de front, dans la brousse. Mais moi, je parle ici du centre-ville ou encore dans des grandes agglomérations où les populations sont en train de se faire égorger. Hier, j'ai été alerté. C'était vers 19h. C'est dans les quartiers Massiane. C'est vraiment en plein centre-ville de Béni où il y a eu des tirs. Et c'est chaque jour comme ça. Avant-hier, c'est la population de Maï-Maï qui avait été tuée en pleine journée. Donc, inutile d'attaquer, c'est inutile de sauvegarder, soit de sécuriser les forêts et laisser les populations dans des grandes agglomérations souffrir ou être tuées lâchement.
Merci Mustapha Moulonda. Nous reviendrons aux solutions tout à l'heure. Eric Kawa Ngoi, rédacteur en chef de la radio-télévision Rwanzururu de Béni RTR, pour vous, un peu la même question. Hein. Avez-vous une idée de ce qui peut expliquer cette insécurité chronique à Béni?
Oui, tout à fait. L'insécurité chronique à Béni est vraiment vaste à comprendre. Moi, j'essaie de déceler quelques problèmes. Je reconnais qu'il y a le terrorisme à Béni. Bon, il y a les fameux...
Qui serait mené par qui?
Qui serait mené par les éléments que les services de sécurité appellent ADF, parce qu'il y a également la pluralité des groupes armés dans la région de Béni, c'est une réalité. Il y a ces fameux projets que les gens disent balkanisation, mais également il y a les mouvements des habitants qui viennent du Petit Nord pour, c'est pas l'Ituri, une zone qui n'est pas totalement sécurisée, et je vois ça comme une bombe à retardement et que je qualifie comme un problème. Certainement, les FARDC disent avoir libéré La Haye, libéré, c'est pas Canada, Médina. C'est bon. Heureusement, les FARDC ont attribué cette victoire à l'appui de la population. Mais face à ce que nous sommes en train de vivre ici, bon, il y a à quoi s'interroger. Il y a quelques années, l'espoir été encore annoncé à la population que, écoutez, les positions des ADF sont déjà récupérées par l'armée, tous leurs camps récupérés, l'axe Mbaoukamango d'ailleurs, père son âme, général Bauma, l'avait ouvert à 2 mois de combat chaque jour, mais tous ces efforts-là étaient multipliés par zéro, comme c'est le terrorisme, et jusqu'ici, on ne sait pas si tous les seigneurs de guerre, les meneurs sont déjà identifiés, maîtrisés ou neutralisés. Est-ce qu'on a déjà identifié les sources de ravitaillement, de financement de ces mouvements terroristes? C'est qu'il y a encore une matière à faire. Alors, il y a du travail.
Justement, Eric Kawa, j'entends dans vos analyses beaucoup de conditionnels. Hein. Vous dites ce qu'on appelle, ce qui est qualifié, etc. Vous avez un doute et vous avez le droit d'en avoir un s'il en faut. Mais est-ce que vous avez, vous, identifié, enquêté, trouvé d'autres explications?
Je mettais les conditionnels. Pourquoi? Parce que je l'ai dit à Beni, dans la région de Beni, il y a une pluralité de groupes armés. Mais ce qui est vrai, ce qui est vérifiable, il y a le terrorisme qui se passe à Beni. Maintenant, qui est auteur de ce terrorisme? Les forces armées de la République démocratique du Congo attribuent ce terrorisme aux éléments de l'ADF. Des décennies passées au parlait de ADF Nalu parce que ça constituait une menace pour l'Ouganda, mais actuellement c'est une menace contre la population congolaise, raison pour laquelle il y a encore les conditionnels utilisés.
Merci Eric Kawa, nous reviendrons aussi un peu comme avec Mustapha pour les solutions tout à l'heure. John Kanyunyu, journaliste correspondant de La Voix de l'Allemagne au Nord Kivu, Deutsche Welle, vous êtes un habitué un peu de cette tribune, mais votre terrain d'action c'est ici au Nord Kivu. Vous, quel est votre regard de cette insécurité chronique?
Oui, l'insécurité chronique, nous le savons tous. Et bien que les confrères mettent un peu beaucoup de conditionnels dans leurs interventions, mais je dis, celui qui tue à Beni est connu. Il est connu, c'est l'ADF. Voilà. Et le problème, c'est quoi? À l'époque.
Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que l'ADF, c'est vraiment une force extérieure qui vient agresser un RDC? Est-ce que c'est des intérêts privés qui viennent agir sur place? Est-ce que c'est la complicité congolaise et même des populations des régions concernées?
Je serai bref. Je crois l'avoir encore souligné dans une autre tribune la fois dernière. Je vais aller à la genèse de cette nébuleuse ADF. L'ADF, à l'époque, c'était Nalu. National Army for Liberation of Uganda, je ne sais pas, l'armée nationale pour la libération de l'Ouganda. Et le recrutement se faisait en plein centre de Beni. Et c'était à l'époque du Zaïre, donc à l'époque du président Mobutu. C'était en 95-96. Et leur bureau était établi à Matongé, à côté d'une position, où je peux dire un commissariat, si je peux l'appeler ainsi, de la garde civile. Donc ils étaient protégés. Et tout Congolais, tout jeune, qui s'enrôlait dans cette nébuleuse, cette ancienne Nalu, était patriote. Donc il faisait le sursaut du patriotisme. Et le recrutement valait 100 dollars. On te recrute, on donne 100 dollars que tu vas laisser à ta famille. Et c'était fait aux yeux et aussi de tout, aux vues et aussi de tout le monde. Et cette rébellion-là des Nalu, qui avait pour vocation aller libérer l'Ouganda d'Aimé de Museveni, à un certain moment, Idi Amin Tabani, qui était le fils ou qui est le fils de Idi Amin Dada, avait fait d'alliance avec Museveni, il est rentré chez lui, et du coup, Nalu est tombé. Et à l'époque, il y avait une alliance entre ADF, donc Alliance des Forces Démocratiques et Nalu. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de ADF Nalu. Effectivement, parce que Nalu est retourné en Ouganda et ADF est resté ici. Et les ADF là, et les Nalu, après leur défaite, parce qu'ils avaient tenté d'attaquer l'Ouganda, ils étaient arrivés même sur Bouera, à une vingtaine de kilomètres après la frontière de Kasindi. En Ouganda, on les avait repoussés et se sont retrachés dans la brousse, entre autres dans le massif des Rwenzori. Et pendant tout ce temps, L'AFDL est venu, ils se sont rétrachés là-bas. Ils ont marié leurs filles et leurs fils à certains autochtones. Certains autochtones ont marié leurs filles et leurs fils. Voilà des types de relations qui avaient eu lieu. Mais à un certain moment, en 2012, si pas 2011, si j'ai bonne mémoire, ils ont commencé à kidnapper les gens qu'ils ramenaient en bourse. Est-ce que c'était à la veille de se transformer en terroriste, à un groupe terroriste? Je ne sais pas. Mais les faits sont là. Les ADF tuent. Ils égorgent la population. Nous ne devons pas nier que c'est l'ADF qui égorge. Bien sûr, il y avait avant les affrontements, avant le lancement des opérations de grande envergure, le 16 janvier 2014, avec feu général Bahouma, il y avait des Maïmas, il y avait des groupes de Maïmas qui existaient ici. Mais depuis lors, on n'en parlait pas. Je reviens maintenant sur le doute qu'émettent mes confrères. C'est quoi? Béni ou la partie Grand Nord? Bien sûr, nous avons un leader qui s'appelle Moussa Nyamwisi. À un certain moment, il n'était pas à bon odeur de santé avec son ancien allié, Joseph Kabila, parce que c'est Moussa Nyamwisi qui avait montré, qui avait présenté Joseph Kabila à la population de Béni. Et quand il a quitté Joseph Kabila, comprenez que les gens qui étaient derrière lui devaient faire la même chose. Voilà pourquoi ici, cette partie était considérée comme une partie de l'opposition, comme étant une partie acquise à l'opposition. Et qu'est-ce qui a gâché tout ça? Avec le feu général Bahouma, je suis parmi les journalistes, j'étais d'ailleurs le chef de la délégation ou le chef de l'équipe des journalistes qui accompagnait les FARDC dans ces opérations. J'ai eu affaire Madina qu'on chante aujourd'hui. En avril 2014, moi je faisais Madina, j'ai fait Madina à plus de 6 fois. Et aujourd'hui, les FARDC qui auraient conquis cet espace-là, bon, c'est bien, mais à l'époque, cet espace était pris par les FARDC. Alors, qu'est-ce qui a été à la base de ce qui se passe ici? Quand les massacres ont commencé en octobre 2014, après la mort du général Bahouma, vous savez, quand un chef tombe, c'est le moral des militaires qui est en baisse. Et puis, je peux dire, il y avait un certain relâchement dans ces opérations-là, parce que le général Bahouma était aimé et par les troupes et par le commandement, donc par les commandants des diverses unités. Alors, quand les ADF ont commencé à égorger, il y a eu des entre-acquisitions. Mais aujourd'hui, quand même, je peux dire, je peux en être fier, il y a un mariage civilo-militaire.
C'est-à-dire entre l'armée et les civils, qui se partagent des informations.
Voilà, qui se partagent des informations. Alors, je vais retourner sur les victoires dont vous avez souligné.
Qui sont communiquées par l'armée.
Voilà, et je vais dire ce que nous vivons aujourd'hui. Sans peur d'être contredit, je me dis, c'est la conséquence d'une mauvaise communication de la part de l'armée. Je serai direct. Ils ont pris Madina, ils ont pris Mayangos, ils ont pris Mwalika, ils ont pris. C'est bien. Je peux vous dire que sur les 100% de la partie ou du territoire qu'occupaient les ADF, je peux me dire que seuls 30%
a été récupéré par l'armée.
Okay. Ça, c'est des 1, des 2. À l'époque du général Mbangou Marcel, qui a été remplacé dernièrement, bien sûr, c'était pas une bonne habitude, je peux le dire ainsi, mais quand même, à son époque, quand les FARDC menaient des actions, on voyait le fruit. Il y avait des cadavres et des ADF qui étaient étalés à la tribune de Béni, à la tribune du 23 mars. Les gens voyaient. Mais cette fois-là, ce n'est pas le cas. L'armée a parlé des 81 ADF neutralisés. C'est bien. Mais la population peut se poser la question, où sont les corps? Bon, ok, c'était à profondeur. Admettons-le. Ça, c'est de 2-3. Pour anéantir l'ADF, il faut se rassurer que vous avez neutralisé son commandement.
Ce qui n'est pas apparemment le cas, et nous reviendrons, je vous redonnerai la parole au moment des solutions de manière générale pour nos sujets prévus pour ce soir, le temps d'avancer vers le deuxième aspect de notre débat de ce soir, un peu comme avec l'insécurité dont nous venons de parler, la maladie à virus Ebola sévit certes aussi dans la province de l'Ituri, mais également dans la région de Beni depuis au moins une année. La barre de 1000 morts a été franchie et il y a déjà longtemps, mais la maladie ne quitte toujours pas la région. Une accalmie a été observée pendant plusieurs semaines, surtout jusqu'en fin 2019, mais depuis le début de cette année 2020, un certain nombre de nouveaux cas commencent à être signalés. Vous allez garder la parole, hein, John Kanyunyu, journaliste correspondant à la Voix de l'Allemagne, Deutsche Welle. Selon vous, hein, la question c'est comment expliquer la persistance de cette maladie qui n'a jamais autant résisté en République démocratique du Congo que dans cette partie est du pays. Comment finalement, selon vous, vaincre Ebola à Beni et dans cette partie est?
Oui, je veux vous parler de ce que les gens ne disent pas. Le problème avec Ebola, c'était cette riposte-là, au départ. On déclare l'épidémie d'Ebola dans la région, et du coup, on voit des équipes débarquer sur Beni, et c'est toute l'Égypte, des luxe, de quoi, qui étaient prises en location, et le traitement du personnel soignant et autres. Donc, la population se disait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu choléra, il y a déjà eu rougeole, il y a déjà eu, je ne sais pas quoi, poliomyélite, mais c'est quoi ça, cette histoire? Au départ, la réponse était biaisée. Mais aujourd'hui, quand même, la population a compris qu'il fallait collaborer avec les équipes de la riposte. Et la collaboration a été là, mais il s'est posé problème. Il y a des gens qui vous parlent d'Ebola business. Mmh. J'avais ma Jeep et que je pouvais faire louer à 3 000 $ le mois. Et vous comprenez, 10 mois, ça fait 30 000 $. Hein. Est-ce que je serais d'accord qu'on en finisse avec Ebola? Je pense que la réponse est non.
Oui. Pensez-vous que la maladie quand même est visible au sein de la population, et pensez-vous que justement cette maladie elle-même a un impact mineur, mais c'est surtout peut-être les profits qu'on en tire et qui fait que ça continue, on continue d'en parler ici.
Oui, non, la maladie est là et la population a compris que la maladie était là et que la population est en train de respecter les mesures de l'hygiène.
Donc vous préconiserez que pour notamment aussi être efficace au niveau, en plus du niveau médical, il faut un comportement qui favorise l'adhésion de la population et qui n'élève pas les soupçons et le refus de collaborer.
Non, la population a collaboré, la population a adhéré. Mmh. Donc le problème c'est quoi? C'est ça que je disais. Comment imaginez-vous? On était presque à la fin de l'épidémie. Mais du coup, les Maïmaï attaquent l'autre côté, à Biakato, en Ituri. Comment imaginez-vous cela? Ils ont été envoyés par qui? Et pour quel intérêt? Ils vont tuer les gens, ils vont tuer les innocents. Et du coup, les cas qui étaient sous observation ont fui. Et ils se sont dirigés les uns vers Beni, les autres vers Butembo. Et du coup, Beni qui a enregistré quelques jours sans nouveau cas, on a commencé à enregistrer des cas. Donc, c'est question de voir qui peut être derrière ça, qui fait ça. Et dès qu'on a une réponse là-dessus, je pense que ça sera la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans cette région.
Merci John Kanyunyu. Eric Kawangoy, rédacteur en chef de la radio-télévision Rwanzururu de Beni RTR. Alors, votre analyse aussi, hein, de la persistance de cette maladie à virus Ebola dans la région de Beni, quelle solution pour vaincre aussi cette autre difficulté à laquelle la population de Beni fait face?
Merci, je vais d'abord dire que Ebola c'est une réalité à vie de Beni et il faut l'implication de tout le monde pour vaincre cette épidémie qui a tué plusieurs habitants ici à Beni. Mmh. Je veux rappeler que ce que nous vivons maintenant ici, c'est la quatrième flambée de cette épidémie en ville de Beni. C'est qu'il y a des avancées, on rechute, on revient. Pourquoi il y a persistance de cette maladie en ville de Beni? Comme mon frère John a évoqué, l'insécurité. les humanitaires-là ne doivent pas être à ça pour ça innocents dans cette histoire. L'insécurité vraiment est à la base. Il y a pas couloir humanitaire, aucune sécurité. Il y a des personnes qui se sentent concernées. Il y a même mort d'hommes dans cette insécurité.
Mais ne pensez-vous pas que la population, un peu comme nous avons tous constaté, qui résistait à collaborer avec les équipes médicales, qui a attaqué même les équipes chargées de la riposte, vous ne pensez pas que ce comportement a aussi favorisé plusieurs fois la non-victoire des équipes médicales sur cette maladie?
Tout à fait, ça ce n'est pas exclu, mais je dois préciser que cet engagement communautaire est en train d'évoluer à Ville de Béni, comme dans les environs, sauf que cet engagement n'est pas encore total, effectif. Pourquoi? Je parle par exemple pour le cas actuel, la gestion des visiteurs pose problème. Or, il faut une bonne gestion des visiteurs. Plusieurs cas à Béni sont importés. Les contacts viennent de la partie ouest de Béni. Il y a ceux qui viennent du territoire de Mambasa, province de l'Ituri, ceux qui viennent de la zone de santé de Mabalako, qui viennent infecter encore la vie de Béni.
Vous pensez que c'est le cas, notamment en ce moment-ci, où on avait vu, au mois de décembre, une absence de cas signalés, et que dès le janvier, on a commencé à compter ou à signaler des nouveaux cas?
Oui, c'est ça. C'est le cas à Ville de Béni. Pour le moment, tous les cas contacts, tous les cas confirmés à Ville de Béni viennent. Ce sont des personnes qui viennent
de l'extérieur,
la zone de santé de Béni. En plupart, zone de santé de Mabalako et zone de santé de Mandima, en province de l'Ituri, territoire de Mambasa.
La solution pourrait être quoi, selon vous?
Oui, la solution, c'est encore une fois multiplier la vigilance, parce qu'il y a baisse de la vigilance également à Ville de Béni lorsqu'il y a certaines personnes cachées. Hein, vous cachez les visiteurs, vous ne voulez pas les dénoncer, les présenter auprès du chef de quartier. Il y a baisse de vigilance même dans les chefs de ceux qui soignent, des infirmiers, parce qu'il y a même des cas confirmés positifs des infirmiers à Ville de Béni. C'est que la vigilance a vraiment baissé. Il y a ceux qui pensaient que ceux qui se préparaient à dire au revoir à Ebola, il y a certaines pratiques, même au poste de contrôle, il y avait une certaine légèreté dans les points d'entrée. Bon, c'était la formalité de se laver, c'était devenu presque facultatif. Comprenez que cette baisse de la vigilance est à la base de cette quatrième flambée de l'épidémie à Ville de Béni.
Merci Eric Kawa. Moustapha Moulonda, directeur de la radio Voix universitaire officielle du Semouliki, Voix sans sigle de Béni. Pour vous, cette durée de cette flambée de la maladie à virus Ebola dans votre région, est-ce une combinaison des responsabilités de la population, des équipes médicales et peut-être des hommes d'affaires?
Moi, j'accuserais beaucoup plus le départ. Le départ dans la riposte, parce que c'est comme ça qu'on nomme la lutte contre la maladie à virus Ebola ici à Béni, était mal parti. Les équipes sont venues ici avec les modèles calqués de l'Équateur, alors que les contextes sont vraiment différents. À Béni, un milieu meurtri, un milieu où il y a vraiment de l'insécurité, nous voyons débarquer de gens, soi-disant communicateurs, qui ne maîtrisent même pas la langue locale. Et ils sont déversés à Mangina et de périphérie de Mangina, où les gens ne parlaient que de langue locale et ne pouvaient même pas comprendre ce qui se disait soit à Lingala ou soit en français. Donc, le débit était déjà biaisé. Et à part ça, il y a aussi la situation politique qui s'est invitée dans la lutte contre cette maladie meurtrière. Il y a la population de Béni qui n'avait pas eu la chance de voter le président de la République. Et c'est là à cause d'Ebola. Les gens ne pouvaient pas voter parce qu'il y avait Ebola. Alors que la population commençait petit à petit à comprendre. Parce que tout au début, quand Ebola a surgi ici à Béni, la population a même commencé même à marcher avec des cache-nez et avec des gants. Jusqu'à ce que le sensibilisateur disait que non, Ebola ne pouvait pas se déplacer dans l'air. Donc, il y avait déjà cette attitude-là et cette habitude de se protéger jusqu'à ce que la situation politique vient s'impliquer dans la riposte. Et c'est depuis lors que la population était devenue méfiante en face de celle-là qui était venue ici pour combattre Ebola. Et merci beaucoup, par exemple, au docteur Muyembe, qui est venu avec l'approche de démystifier un peu cette maladie en disant que non, il ne faut pas que l'on dépense beaucoup de moyens pour combattre ces virus, parce que c'est la population elle-même qui doit s'approprier d'abord la lutte. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui, ça se fait très bien. C'était très compliqué, vous avez malade chez vous, une maladie qui n'est pas encore connue, et les gens avaient une mauvaise vision du centre de traitement Ebola, parce qu'ils savaient qu'aussitôt vous arrivez là-bas, vous êtes mort, aussitôt mort, on vous enlève les organes importants du corps qui seront vendus quelque part. Avec cette idée, quand les véhicules arrivaient à la maison pour venir prendre les malades, parce qu'ils faisaient déjà des signes par rapport à la maladie, dont la fièvre aiguë, le mal de tête et consorts, le premier réflexe était de cacher le malade. Et c'est ce qui avait un peu compliqué la donne. Pourquoi ? Parce que on pouvait voir pour un seul malade, comme l'a dit le confrère John, 10 jeeps qui pouvaient débarquer à la maison. D'abord, il y a la pauvreté qui règne. Quelqu'un qui était embauché dans la riposte pouvait facilement gagner un peu de moyens et faire la folie dans les quartiers. Et automatiquement, tout le monde voulait être embauché. Okay. Ce qui faisait les champs, abandonner les houes pour venir chercher de l'emploi. Et pour avoir de l'emploi, il faut constituer les groupes de gangs. Les gangsters qui pouvaient bloquer passage aux équipes de riposte quand ils venaient pour les interventions. Et automatiquement, il y a négociation. Et les gens se faisaient embaucher comme ça, et c'était le cycle de violence.
Merci.
Aujourd'hui, pourquoi la maladie refait surface? Moi, je vais accuser seulement la légèreté qui s'observe sur le point de lavage de mains dans de barrières d'entrée.
Okay.
Il n'y a pas vraiment trop de rigueur. Moi, je voudrais plutôt qu'il y ait au moins une sorte de persuasion pour permettre à ce que la population puisse respecter au moins les points de lavage des mains, parce que cette idée-là d'une maladie importée pour venir tuer la population de Béni, parce que la population locale pense que comme elle résiste face au massacre, il y a dans les laboratoires quelque part, les gens se sont constitués et fabriqués Ebola pour venir encore une fois renforcer la souffrance ici. Alors il y a encore certaines populations qui continuent à garder cela dans l'esprit. Donc il faut que la sensibilisation soit faite, et beaucoup plus, comme c'est impossible de convaincre tout le monde, de mettre une certaine dose de persuasion pour que les gens respectent les normes afin de protéger la communauté.
Merci, nous n'avons plus beaucoup de temps, mais nous allons quand même aborder notre dernier aspect de ce soir. Terminons donc notre émission de ce soir avec un clin d'œil sur nous-mêmes, c'est-à-dire la profession journalistique à Béni et au Nord Kivu. On ne va plus se demander s'il y a des journalistes dans cette partie de la RDC, vu que vous êtes au moins trois à venir débattre avec nous ce soir. Mais la question ce soir est, selon vous, en très peu de mots, selon chacun de vous, comment s'exerce le métier de journaliste au Nord Kivu et à Béni dans ce contexte que nous venons, dans tout ce contexte que nous venons d'expliquer? En quelques mots, John Kanyunyu, journaliste correspondant à La Voix de l'Allemagne.
Moi, de ma part, je me dis, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de problème. Nous travaillons bien, et quand on a besoin d'une formation donnée, on appelle la source. Et quand il y a une information à vous donner, on vous donne. Et moi, de ma part, je n'ai jamais eu de menaces, comme ça peut être le cas pour certains confrères ou consoeurs. Mais bon, je me dis, bien sûr, nous travaillons dans un contexte pas ordinaire, mais nous prenons aussi des dispositions de voir qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire. Et quand nous nous auto-censurons, vous comprenez que tout marche bien. De ma part, il n'y a pas de problème. Je fais mon travail et personne ne me bouscule pour le faire, et personne ne me menace. Voilà, personne ne m'empêche de faire mon travail. C'est question de faire le travail d'une manière professionnelle, et tout va de soi.
Merci, John Kanyunyu. Peut-être un dernier mot, juste en quelques secondes, pour clôturer cette émission. Quelques secondes.
Oui, un dernier mot. Je vais appeler l'armée à bien communiquer, à voir qu'est-ce qu'elle peut dire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas dire, et contextualiser la situation. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous venons de vivre à Maïmoya, à Kokola, l'armée a dit, on a presque neutralisé les ADF et qu'il ne restait que seul commandant au nom de Seka Baruku. Et du coup, il y a des massacres, du coup, il y a des attaques. Et la population peut poser la question à l'armée. Vous nous aviez dit que vous avez neutralisé ces gens. Qui sont ceux-là qui viennent nous tuer? Je pense que nous n'allons pas en arriver là. Je demande à l'armée de bien communiquer et de contextualiser la situation pour éviter qu'il y ait encore des re-questionnements, pour éviter de tomber dans ce que nous vivions avant les élections dans cette partie de la RDC.
Merci John Kanyunyu. Eric Kawangoy, rédacteur en chef de la radio-télévision Rwanzururu de Beni, RTR. Comment vous analysez l'exercice du métier de journaliste à Beni? Quel est votre témoignage?
Merci pour la question. Le journalisme à Beni évolue dans les conditions de Beni parce que travailler dans les conditions de Beni, ça doit être une compétence que quelqu'un peut mettre même sur son CV. La sécurité et autres, les contextes politiques de la région où certaines personnes cherchent à tout prix à politiser toutes choses, mais heureusement les journalistes sont restés journalistes. Il y a ceux qui ont cédé à n'importe quoi. Non, il y a ceux qui ont abandonné leur métier pour, par exemple, la riposte. Il n'y a que les journalistes qui sont restés journalistes et il est en train de servir la communauté à Beni.
Merci. Et un dernier mot pour l'ensemble de nos sujets.
Merci pour l'ensemble de nos sujets. Par rapport à la sécurité, je salue la présence des experts de la CIRGL qui sont ici chez nous à Ville de Beni. Mais je rappelle que c'est lui qui tient à Beni les terroristes. Et encore là, il n'est pas encore vraiment neutralisé. Ça doit être clair. La population, nous devons accompagner les forces armées de la RDC. Nous devons collaborer vraiment. Nous devons donner des informations au moment opportun parce que le danger est encore là, même si certains bastions seraient récupérés. Mais avec le terrorisme, je ne pense pas que la victoire peut commencer à être chantée.
Merci Eric Kawa. Moustapha Mulonda, votre témoignage de l'exercice du métier dans les conditions difficiles de Beni et votre dernier mot.
Franchement, c'est dans des conditions difficiles que nous travaillons. Et comme président de la sous-section de l'Union nationale de la presse du Congo ici à Beni, je profite de ce micro ici pour remercier tous les journalistes de Beni pour rester forts durant toutes ces épreuves difficiles traversées à Beni, mais aussi pour leur combat dans la riposte. Parce que je vous rappelle que le 25 juillet 2019, nous avions organisé une marche ici à Beni pour dénoncer les business qui étaient perceptibles dans Ebola. Et cela a vraiment changé beaucoup de choses jusqu'à ce qu'aujourd'hui, même si on dénonce qu'il y a quelques cas de maladie, mais ce n'est pas vraiment récurrent comme à cette époque où les gens étaient vraiment morts à tout temps ici, tout le temps ici à Beni. Et à part ça, je voulais également parler de l'insécurité en interpellant un tout petit peu les acteurs de la protection. Il faut qu'il y ait au moins une réforme de services de sécurité. Parce que les ADF qui tracassent la ville de Beni pour l'instant, ce sont ceux-là qui sont basés dans la ville, pas vraiment dans la profondeur, parce que là, il y a un grand travail qui se fait par l'armée. Mais il ne faut pas seulement que l'on s'attaque tout le temps, ou soit qu'on recommande tout le temps les FARDC, les services de sécurité. Il ne faut pas oublier que le partenaire, la MONUSCO, elle est là. Elle doit tout faire pour essayer aussi de faire ce qui est possible pour pacifier la région. Parce que la population attend beaucoup de cette MONUSCO et nous l'avions vu le 25 novembre dernier quand la population était allée elle-même pour demander à la MONUSCO de l'aider parce qu'elle souffre. Et c'est vraiment ce que j'avais à dire. Merci. Pour finir, remercier les journalistes, vous remercier également pour songer également à la presse de Beni de participer à cette tribune importante.
Merci à tous les trois, merci à tous les journalistes du Nord Kivu et de la région. Merci à la population et les officiels de Beni et du Nord Kivu. Merci à toute l'équipe Radio Okapi Beni. Merci à nos collègues de l'équipe Dialogue entre Congolais spécial à Beni, Patrick Kiasongwa, Kéline Kouté, Guy Maté et le chef du bureau de la MONUSCO à Beni, Donat Madimba, à la présentation. C'est moi, Tribune de presse spéciale Beni. C'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.